Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Faire respecter les droits des enfants apatrides, un devoir. Selon une étude de l'INS, Institut national de la statistique, datant de 2018, seuls 40,1% des naissances sont enregistrées à l'état civil en RDC. Pour la seule année 2020, le service de l'état civil de la commune de Lemba a enregistré plus de 6000 naissances. Ce qui fait dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont apatrides sans le savoir parce qu'ils ignorent leurs droits, soit du fait de leurs parents. Les enfants apatrides, qui sont-ils et pourquoi? Quels sont leurs droits et comment les faire respecter? Est-ce que l'enregistrement des naissances est un outil essentiel de protection de l'enfant? Tout à travers ce magazine de promotion de vos droits et devoirs. Je suis Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous.
L'acte de naissance est un document qui prouve mon existence. C'est grâce à cela que mes parents m'ont inscrit à l'école maternelle et on m'a fait enregistrer à l'état civil, donc à la commune. On doit me déclarer à l'état civil grâce à l'acte de naissance. Et les parents m'ont toujours dit que lorsqu'on est, on doit être toujours déclaré à l'état civil. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi avec nous.
J'ai retenu que l'acte de naissance est un document qui m'identifie. Et c'est grâce à ça qu'on m'a inscrit à l'école maternelle. Mes parents m'ont toujours dit que quand on doit toujours être déclaré à la commune 30 jours de la naissance. Ils m'ont toujours montré ces documents, car c'est le document dans lequel je suis identifié par l'état civil.
L'acte de naissance m'identifie. Mon père et ma mère sont allés enregistrer mon nom à la commune, ils ont déclaré ma naissance à la commune. C'est comme ça qu'on me connaît, on connaît mon nom. Et mon père et ma mère m'ont toujours parlé de l'acte de naissance de ce document. C'est un droit qui reconnaît à chaque enfant. Il reconnaît ça comme document d'identité nationale pour l'enfant. Mes parents m'ont toujours parlé du document d'identité.
Kissia Makambo, vous êtes chargé des opérations au comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie du ministère de la Justice. Nous vous recevons pour parler du respect des droits des enfants apatrides. Comment réagissez-vous au témoignage de ces enfants de tout à l'heure?
Au fait, ce sont des cas rares de trouver une famille où les enfants comprennent l'importance de l'acte de naissance. C'est très rare. Dans le cadre du comité, nous organisons beaucoup d'activités sur l'apatridie, des préventions de l'apatridie. Et on se rend compte que les parents ne savent même pas à quoi ça sert un acte de l'état civil, un acte de naissance. Qu'est-ce que même l'état civil? Les gens ne le savent pas. Du moment qu'il y a une telle ignorance dans le chef de ceux qui sont censés enregistrer les enfants de l'état civil, il y a déjà un problème. C'est pourquoi les comités ne cessent de conceptualiser, d'organiser des activités de grande envergure partout sur toute l'étendue de la République pour sensibiliser les parents à l'enregistrement des naissances à l'état civil. Mais on ne se limite pas aux populations, on regarde aussi les gouvernements, qui a aussi une part de responsabilité énorme. C'est celui qui est censé organiser l'état civil, qui est censé faire en sorte que, par l'état civil, tout individu se trouvant sur son territoire, étranger, réfugié, apatride, congolais, puisse avoir les documents qui permettent de l'identifier. Mais ce n'est pas le cas actuellement.
Qu'est-ce qu'on entend par l'apatridie?
Merci. L'apatridie, c'est la situation d'une personne ou d'un individu qu'aucun État ne reconnaît comme se ressortissant par application de sa législation. Ça, c'est une définition qui est fournie par l'article 1er de la Convention des Nations Unies de 1954 relative au statut d'apatride. Mais en des termes clairs, une personne est apatride lorsque elle n'a pas de nationalité. Ça, c'est vraiment une définition qui peut permettre à tout le monde de cerner ce qu'est une personne apatride. Mais l'apatridie peut intervenir des suites de plusieurs causes. La première cause, c'est les défaillances du cadre législatif sur la nationalité.
Comment est-ce qu'on tombe dans cette situation d'apatridie?
Voilà.
Puisque c'est vraiment inconcevable de dire à quelqu'un que vous n'avez pas de nationalité. Comment est-ce que la personne peut vous croire?
Justement, vous savez, vous êtes très bien fait de préciser de cette façon, parce que la nationalité, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont l'article 15 dispose que tout individu a droit à une nationalité. Et nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de la changer. Et cette Déclaration universelle des droits de l'homme consacre le droit à la nationalité. Et donc la nationalité est un droit humain fondamental. Vous comprenez? Ce qui implique que l'apatridie soit une anomalie juridique. Une personne humaine, en principe, ne peut pas manquer de nationalité. Mais il y a des causes structurelles et conjoncturelles qui peuvent justifier l'apatridie.
Quelles sont ces causes?
Il y a notamment les défaillances qu'on peut retrouver dans les cadres législatifs sur la nationalité d'un État. Il y a l'ignorance, la négligence des parents autour des enjeux de l'enregistrement des naissances à l'État civil. Voyez-vous, la mauvaise organisation du système d'État civil est aussi la cause de l'apatridie. Voyez-vous, dans le cas de notre pays, notre cadre légal sur la nationalité est porteur des germes de l'apatridie. Au fait, la loi congolaise sur la nationalité ne garantit pas les droits à la nationalité pour tous.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Droits et citoyenneté.
Respect des droits des enfants apatrides. Kissem Makambo.
Il y a bon nombre de dispositions qui exposent les Congolais à l'apatridie. Il y a notamment l'article 7 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise qui expose plus d'un Congolais à l'apatridie. Je dirais même mieux des millions de Congolais à ce risque d'apatridie. Parce que cette disposition dit que l'affiliation d'un enfant ne peut avoir de l'incidence sur sa nationalité que lorsqu'elle est établie au cours de sa minorité.
Donc, l'affiliation, c'est la déclaration de la naissance de l'enfant à l'état civil.
Voilà, l'affiliation résulte de la déclaration de naissance à l'état civil. Or, cette disposition-là ne tient pas compte de la manière dont notre système d'état civil est géré. La RDC est caractérisée par une faible couverture territoriale en bureau d'état civil. Ce qui implique que le taux d'enregistrement de l'état civil en RDC est très faible. Alors quand notre propre loi dit que toute filiation pour avoir une incidence sur la nationalité congolaise doit être établie au cours de la minorité, cela pose de sérieux problèmes. Parce que combien de Congolais sont enregistrés à l'état civil pendant leur minorité? Déjà, l'INES, l'Institut national de la statistique, avait fait une enquête en 2018 et qui a révélé que seuls 40,1% d'enfants en RDC sont enregistrés à l'état civil.
40,1%.
Et sur les 40, là.
Là, c'est en 2018.
Là, c'est en 2018.
La situation n'a pas pu évoluer. Nous sommes en
2021. La situation s'est d'ailleurs empirée.
C'est la situation empirée, en tout cas.
La situation s'est beaucoup empirée. Je venais de l'Ituri. J'ai rencontré les autorités militaires parce que j'y étais pour discuter avec elles au sujet de, de l'organisation des activités de lutte contre l'apatridie en province.
Mais c'est dû à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ce taux faible?
Le taux faible est justifié par plusieurs situations, dont notamment le manque de motivation même du personnel de l'état civil. C'est ce que moi j'appelle les opérateurs de l'état civil. Les officiers de l'état civil ne sont pas tous mécanisés, ne sont pas pris en charge par l'état congolais. Les bureaux de l'état civil sont éloignés des populations, voyez-vous. Bref, le système de l'état civil en RDC n'est pas opérationnel, n'est pas fonctionnel. D'ailleurs, les Nations Unies ont classé les systèmes de l'état civil en RDC comme étant insatisfaisants, parce qu'il ne permet pas d'assurer efficacement la fonction administrative et juridique de l'état civil, mais également la fonction statistique. La fonction administrative et juridique, c'est celle qui permet à un État de protéger et d'assurer l'identité juridique pour toute sa population. L'identité juridique, c'est la capacité d'exister juridiquement, de jouir des droits et de les exercer. Et cette identité juridique est la résultante de l'enregistrement des naissances à l'état civil. Par l'état civil, tout individu est censé posséder des documents administratifs qui permettent de les identifier. Mais combien de Congolais aujourd'hui sont en mesure de prouver qu'ils sont Congolais, sont en mesure de prouver qu'ils existent? Parce que la raison est simple. La plupart des Congolais ne sont pas enregistrés à l'état civil. La deuxième fonction que notre système d'état civil ne remplit pas, c'est la fonction statistique. Un système d'état civil qui est fonctionnel, qui est opérationnel, qui est efficace, doit être en mesure de fournir aux gouvernants des données statistiques sur la population. C'est le gouvernement, par l'état civil, peut avoir des données qui lui permettent de savoir le nombre de populations, le nombre des enfants nés dans un territoire déterminé, dans une province déterminée, le nombre des décès qui surviennent sur son territoire. Les différentes données statistiques qui résultent de l'enregistrement du fait d'état civil constituent un instrument précieux au bénéfice de la planification du développement dans un état. Vous comprenez donc un état qui a un système d'état civil qui ne fonctionne pas normalement ne saura pas rationaliser sa gouvernance. Comment construire, comment prévoir la construction des millions, des milliers d'écoles quand on n'a pas des données statistiques sur les provinces? L'année passée, avec le gouvernement, sous le régime, avec le gouvernement Matata, comme on a l'habitude de le dire, il y a eu un programme de construction de 1000 écoles. Mais en tant que spécialiste sur les questions d'état civil, les nationalités et d'apatridie, quelles sont les données sur base desquelles le gouvernement a échafaudé ces projets de construction des 1000 écoles? Comment les 1000 écoles en question devaient être réparties sur toute l'étendue de la République? Parce que cela ne veut pas dire qu'il faut faire 26 provinces divisées par 1000. Mais il faut avoir des données. Une province peut même bénéficier de des écoles en fonction des données statistiques que l'état civil fournit au gouvernement. Parce que par l'état civil, on sait savoir les nombres d'enfants qui sont nés dans un territoire donné. Ce qui va justifier la construction de tel nombre d'écoles. Parce que le gouvernement aura à sa portée des données qui permettent d'échafauder son programme de développement.
Est-ce qu'il existe réellement un service de l'état civil dans des milieux ruraux, dans nos villages?
Oui, les services d'état civil est censé exister partout parce qu'un système d'état civil doit être universel. C'est-à-dire partout, on doit avoir un bureau d'état civil à mesure de constater et d'enregistrer les faits d'état civil qui surviennent. Malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, il y a insuffisance de bureaux d'état civil sur toute l'étendue de la République. Là où les bureaux existent, beaucoup ne sont pas opérationnels parce que les opérateurs de l'état civil censés y travailler ne sont pas motivés, ne sont pas mécanisés. Je vous ai dit tantôt, j'étais en Ituri, où les bureaux de l'état civil sont incendiés chaque jour suite à des situations de conflit, à des guerres qui sont déclarées, qui sévissent. C'est ça en fait toute la problématique qui entoure les systèmes d'état civil en RDC et qui fait que les Congolais soient exposés à l'apatridie. Un autre problème, c'est que les parents, ils ne savent pas qu'ils sont dans l'obligation d'enregistrer leurs enfants à l'état civil. Et que l'enregistrement à l'état civil, c'est un droit de l'homme. Tout enfant a droit d'être enregistré à l'état civil. Et cela ressort même des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Pour ne pas aller très loin dans notre pays. L'article 14 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant dispose que tout enfant a droit à l'identité juridique dès sa naissance. Tout enfant doit être enregistré à l'état civil dès sa naissance. Mais c'est les parents qui ont l'obligation d'enregistrer les enfants à l'état civil. Est-ce qu'ils le font?
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Respect des droits des enfants apatrides. Nous sommes à la maison communale de Lemba, plus précisément au service de l'état civil où nous recevons M. Sylvain Kinanamayala, préposé chef de service, officier suppléant. Pouvez-vous nous faire un aperçu général de l'enregistrement des enfants à l'état civil ici chez vous?
Merci bien. Par rapport au code de la famille justement, et là, la loi dit que, à l'article 116, toute naissance survenue sur le territoire de la République est déclaré à l'officier de l'état civil de la résidence du père ou de la mère dans les 90 jours qui suivent la naissance. La déclaration de naissance et la délivrance de l'acte de naissance survenu interviennent dans le délai légal, se font sans frais. Comme on peut se rendre compte, l'article 116 est clair, bien clair là-dessus. Il dit que toute naissance survenu sur le territoire doit être déclaré. C'est une obligation.
Même si ça vient d'un étranger.
Même si ça vient d'un étranger. On dit bien survenu sur toute la République démocratique. La loi ne fait pas de distinction ici entre les nationaux et les étrangers. Les étrangers, eux aussi, peuvent se faire, lorsqu'il y a une naissance, cette naissance peut être déclarée à l'état civil. Donc, je disais que la loi est créée là-dessus. C'est une obligation légale. Lorsqu'un enfant naît, dans les 90 jours, 90 si vous voulez, cette naissance doit être déclarée à l'état civil, évidemment. Et à l'enfant dont la naissance sera déclarée, va lui délivrer un acte de naissance. Voilà. Et l'acte de naissance, disons-le, confère à ce qui détient donc à l'enfant une identité. Identité, c'est pas par une attestation de célibat, de composition familiale, délivrée par un bourgmestre, mais plutôt par l'acte de naissance délivré évidemment par le bourgmestre officier d'état civil.
C'est par là que je dois rebondir. Est-ce que l'enregistrement de l'enfant à l'état civil est un élément essentiel à la protection des droits de l'enfant?
Oui, tout à fait, un élément naturel à la protection de l'enfant. Et c'est ça, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'identité, n'est-ce pas, parce que qui est conférée à cet enfant par rapport à l'acte de naissance.
Sans cet acte de naissance, on n'a pas l'identité. On tombe dans...
C'est vraiment ça. Lorsqu'on n'a pas l'acte de naissance, on tombe dans la patrie, parce qu'on ne l'a pas. Oui, là, parce que vous le savez aussi bien que moi, on reste longtemps, pendant des années, les enfants prennent de l'âge, ils dépassent l'âge de 18 ans, sans aucun document, sans aucun papier, et lorsqu'il s'agit maintenant de prendre même un certificat de nationalité, C'est tout à fait compliqué. Tout se fait dans le délai de 90 jours. Lorsqu'on dépasse le délai, là vous aurez à faire une requête, justement, au tribunal, où vous aurez d'ailleurs à dépenser, parce que là il y aura des pénalités. Et vous revenez ici à la commune, là on n'aura n'est-ce pas à vous établir un acte de naissance aussi avec des amendes. Donc vous payez des pénalités au niveau du tribunal, et encore vous revenez. Par rapport à l'article 114, les amendes vont de 10 000 à 50 000 francs congolais. Donc vous aurez payé doublement, alors que vous l'aurez fait gratuitement dans le délai, si l'enfant était déclaré dans le délai. Voilà un peu les sanctions qui sont prévues, les pénalités plutôt qui sont prévues. Lorsqu'un enfant n'est pas déclaré dans le délai, donc en dehors du délai, il faut faire une requête au tribunal pour obtenir un jugement supplétif d'ordre de naissance. Et de là, vous revenez à l'état civil pour la suite de la procédure, c'est-à-dire l'établissement de l'acte de naissance, mais avec des amendes aussi. Oui, c'est fréquent, vraiment fréquent, parce que au départ, les parents ne sont pas sensibilisés, bien que nous le faisons pendant le mariage, nous sensibilisons les parents à venir déclarer, les nouveaux mariés à venir déclarer l'essence de leurs enfants. C'est pas tout le monde qui vient évidemment en mariage civil. Là aussi c'est un problème, il faut sensibiliser pour que les gens aillent en mariage civil. Nous sensibilisons, il n'y a pas de sensibilisation, et les cas paraissent sont fréquents, et c'est surtout lorsqu'ils sont dans les problèmes de voyage et autres, des problèmes d'administration, qu'en ce moment-là on voit les parents venir solliciter les actes de naissance. Mais là, c'est trop tard. On les renvoie justement au tribunal, et de là, ils sont surpris, vraiment surpris. Pourquoi est-ce qu'ils doivent aller au tribunal obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance? Mais c'est la loi, que voulez-vous? La loi le veut comme ça. Vous n'avez pas déclaré l'enfant à la naissance. Vous devez vous rendre au tribunal et, je l'ai dit, payer. Là, vous serez soumis, n'est-ce pas, à des pénalités, à de fortes pénalités.
Maintenant, nous sommes à l'étape de nous donner quelques statistiques pour nous rendre compte de l'accomplissement de ces devoirs par les parents.
Et pour ce qui concerne l'année, je vous le donne, l'année passée, parce que l'année passée, donc 2020, l'année 2021 n'a pas encore pris fin, on n'est qu'à la moitié. Et pour ce qui concerne donc les statistiques de l'année passée 2020, nous avons pu enregistrer toutes les naissances confondues, que ce soit les naissances par délai dans les 90 jours, 90 si vous voulez, ou par jugement. Donc nous avons pu enregistrer 6577 naissances. Donc 6577 actes ont été remis à la population, aux gens évidemment qui ont déclaré, aux parents qui ont déclaré la naissance de leurs enfants. Donc 6577 actes remis aux parents. Un chiffre record par rapport, bien qu'on a été secoué, n'est-ce pas, vous savez, par le Covid-19, il y a eu très peu de gens sont déplacés, mais on a quand même laissé un bon nombre de gens de naissance, 6577 pour ce qui concerne l'année passée. Cette année, je vous l'ai dit, l'année n'a pas encore pris fin, nous sommes qu'au milieu, donc je ne pourrais que vous donner le statistique semestriel. Donc 6 mois, nous avons un chiffre de 5118. Naissance, il y a une augmentation. La santé, il y a une légère, il y a une forte augmentation. Donc 5118 actes déjà remis aux parents, malgré le Covid justement. Des parents, demain que nous sensibilisons pendant les mariages, ils sentent le besoin de pouvoir déclarer des enfants, la naissance des enfants à l'état civil.
Donc, quand on amène le jugement supplétif, on obtient de l'acte de naissance.
Oui, parce que l'ordonnance, le jugement lui-même le dit. Le jugement ordonne à l'officier de l'état civil de pouvoir délivrer l'acte, l'établir, le rédiger et le délivrer. Donc ça, c'est dans le dernier dispositif du jugement. L'autorise à l'officier d'état civil de pouvoir déclarer le décès et, excusez-moi, la naissance. Le décès lui aussi est un fait, c'est parmi les trois faits principaux de l'état civil. Hein. Il y a les mariages, le décès, lui aussi doit être déclaré à l'état civil dans le un mois qui suit le décès. Les gens doivent le savoir.
Droit et citoyenneté, c'est le préposé chef de service de l'état civil de l'EMBA.
I'm gonna hurry to
Christian Makambo, chargé des opérations au comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie du ministère de la Justice.
Respect des droits des enfants apatrides, est-ce que c'est un devoir et pourquoi?
Vous savez, l'apatridie, c'est une anomalie juridique. C'est une situation qui expose quelqu'un à des violations des droits de l'homme. Un enfant qui n'a pas de nationalité, c'est un enfant qui n'a pas de droits, qui est sans droit, qui n'a pas droit aux soins de santé, qui n'a pas droit à la scolarité, qui n'a pas droit de voyager, parce que, évidemment, partout, on va lui demander de prouver qu'il existe, de prouver qu'il a un des parents qui est congolais. D'abord, qu'il est une personne humaine, voyez-vous. Alors, lorsque un enfant est identifié comme apatride et que le statut d'apatride lui est donné, il y a des droits minimums qui lui sont reconnus. Malheureusement pour la RDC.
Comme quoi? Les droits qui sont reconnus.
Les droits à la scolarité. Les droits aux soins de santé, les droits à l'éducation, les droits à une religion quelconque, voyez-vous. Mais malheureusement, pour que ces droits soient effectifs, il faudrait que l'État congolais puisse adhérer aux conventions sur l'apatridie. J'ai parlé tantôt de la convention de 1954 relative au statut d'apatride et la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Une fois que la RDC adhère à ces conventions, comme conséquence directe, l'État congolais devra reformer son cadre légal sur la nationalité. Conformément à ces conventions-là. Et en plus, il doit y avoir, en fait, le Parlement doit prendre une loi qui permet d'identifier les personnes apatrides. Et quand on identifie une personne, des personnes apatrides, en conséquence, on doit leur accorder ou leur octroyer les statuts d'apatrides. C'est comme on accorde les statuts de réfugiés à quelqu'un. C'est à travers les statuts d'apatrides que, maintenant, les personnes reconnues, identifiées comme telles, auront des droits qui sont reconnus aux apatrides. Voyez-vous, parce que être apatride, sans avoir les statuts, en tout cas, on est quand même papier. Au fait, il y a des cas avérés d'apatridie en RDC. Je crois que vous avez des entendu parler.
Avérés.
Vous avez entendu parler certainement des refoulés d'Angola.
Les expulsés d'Angola.
Les expulsés d'Angola, les expulsés même du Congo, de la RDC.
C'est-à-dire, Est-ce que le fait d'être expulsé, on perd sa nationalité?
Non, pas du tout. C'est le fait de ne pas être reconnu comme ressortissant d'un État qui fait qu'on devient apatride.
Ils ne sont pas reconnus comme
les gens qui ont été expulsés
d'Angola.
Vous imaginez?
Mais ils rentrent chez eux maintenant en RDC. Ils sont reconnus comme Congolais?
Non. Quand les prétendus Congolais, quand ils sont expulsés de l'Angola, ils sont en RDC, le gouvernement congolais à son tour ne les reconnaît pas comme étant des Congolais, disant qu'ils sont Angolais. Vous comprenez que les gens-là sont vraiment de la situation d'apatridie.
Non, le gouvernement congolais les a reçus, les a même hébergés.
Non, en fait, il y a des gens...
Ils ont été pris en charge par le gouvernorat.
S'il y en a ceux qui ont été reconnus comme étant Congolais, là, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas apatrides. C'est-à-dire que le gouvernement doit en arriver à l'adhésion de la RDC pour qu'on va sur l'apatridie, de mettre en place des mécanismes qui permettent d'identifier les apatrides. Pour résorber ces problèmes d'apatridie. Et la première des dispositions à prendre, c'est d'adhérer d'abord aux conventions sur l'apatridie. Et après, harmoniser le cadre légal congolais sur la nationalité conformément aux dispositions pertinentes de ces deux conventions-là. Voyez-vous? Et évidemment, de prendre une loi qui permette d'identifier les personnes apatrides et d'accorder le statut d'apatride aux personnes qui sont identifiées comme telles. Mais jusque-là, malheureusement, il y a encore ces vices juridiques pour lesquels le comité se bat avec le HCR pour que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités parce qu'il s'agit des engagements auxquels il a souscrit pour éradiquer l'apatridie sur toute l'étendue de la République. Et je voudrais aussi m'adresser à la population congolaise qui aura l'occasion certainement de suivre cette émission. C'est que nous, parents, nous avons l'obligation d'enregistrer nos enfants à l'état civil. L'enregistrement à l'état civil est un droit humain fondamental. Ne pas le faire, c'est exposer nos enfants à l'apatridie, d'exposer nos enfants à l'invisibilité juridique. Un enfant qui n'est pas enregistré à l'état civil, c'est un enfant qui n'est pas reconnu par l'état congolais.
Donc c'est un enfant sans nationalité.
Sans nationalité.
Il n'est pas identifié, qui n'est pas identifié. Officiellement reconnu. Et ça, c'est très grave.
Juste
dans une telle situation.
Donc les parents prennent conscience que la loi leur a donné le délai de 90 jours pour enregistrer les enfants gratuitement à l'état civil. Ils doivent le faire pour permettre à leurs enfants de pouvoir exister juridiquement.
Voilà, c'est sur cette note que cette émission Droit et Citoyenneté qui vous a entretenu sur le respect des droits des enfants apatrides, un devoir, est terminée. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et de rester branchés sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.